Marceau le matin sur les ondes de Boulevard 101 cette semaine. C'est avec Jeff Fortin, Pascal CV et Max Larouche. Le point de Max qui suit de 10h à midi. Parce que vous le savez, c'est le retour de notre programmation 100% parlée cette semaine du lundi au vendredi. Une programmation que vous aimez beaucoup parce qu'on a eu des excellents sondages. Midi à 14h, c'est Pascal CV avec moi-même, Jeff Fortin, dans l'émission On en jase. Hey, Pascal, on va avoir des nouveaux beds comme ça dans l'émission On en jase. Alexis nous achète ça.
Merci, Alexis.
Ah oui, j'ai très hâte d'entendre ceci ce midi. 14h à 18h, Denis Gravel, Véro Bergeron et Max Larouche en remplacement d'Audrey Pinchot qui seront avec vous. Et on recommence ça demain. Et ça sera le retour d'Audrey Pinchot dans le retour de Gravel. Donc, c'est la programmation 100% parlé pour cette semaine et les autres semaines. C'est juste que les autres semaines, Pascal, tu y veux, t'auras pas à te lever de bonne heure le matin. Ça va être Yannick Marceau qui va être de retour.
Oui.
Après un mois de congé, il devrait être capable de se lever. Marceau.
Ben oui, d'après moi, il a hâte de revenir avec l'actualité qui bouille comme ça.
Ouais,
il est très
regarde,
actif.
On regarde une couple de ses pauses. D'après moi, il s'ennuie. Je suis pas sûr qu'il est content d'être en vacances cette semaine. Puis si vous voulez voir Yannick, ben justement, ça va se passer aussi, on le rappelle, vendredi le 16 janvier. 19h, c'est le match Boulevard au Centre Vidéotron, les Remparts de Québec contre le Drakkar de Baie-Comeau. Tout à l'heure, on avait fait tirer 4 billets, puis ça m'a surpris que Max Larouche a gagné le concours de popularité sur Denis Gravel.
Tout le monde, ben, la majorité voulait que ce soit lui qui drop la poque, comme
exactement,
on dit, sur la glace.
Qui dépose la rondelle sur la patinoire, donc on est bien content que Max Larouche puisse bénéficier de ce privilège-là, il le mérite. C'est un grand, grand, grand amateur de junior majeur. Pascal, avant la pause, on s'en parlait. Il va y avoir des retombées, c'est certain, pour le Canada en ce qui a trait au conflit au Venezuela avec le fait que le président Donald Trump est allé enlever le président Nicolas Maduro là-bas samedi dernier. Passage déjà en cours à New York pour Maduro qui a plaidé non coupable de trafic de stupéfiants, là, notamment du côté de New York hier. Et là, bien, ça va avoir des retombées parce qu'on regardait juste hier, le prix du baril de pétrole ici au Canada était à son plus bas jamais enregistré. Donc, on s'est posé la question, Pascal, qu'est-ce qui va arriver avec le pétrole canadien, avec quand même une richesse importante pour le pays du Canada.
Et la ressource aussi première qu'on met dans notre voiture pour le transport.
Exactement, parce qu'on dit toujours, si on a de la péréquation au Québec, c'est à cause du pétrole de l'Alberta. Fait qu'il va arriver quoi avec nos finances? Et on a au bout du fil Pierre Graff, qui est président directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et analyste en économie. Pierre, merci beaucoup pour ta disponibilité.
Bonjour, Jean-François.
Pierre, mais premièrement, je vais te souhaiter une bonne et heureuse année 2026 et beaucoup de succès là, avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.
Merci, bonne année à toi également.
Merci beaucoup. Pierre, est-ce qu'il va avoir un impact à court terme sur le prix du baril de pétrole, un impact économique pour la province qui nous amène beaucoup d'argent au Canada, c'est-à-dire l'Alberta?
En fait, il y a trois éléments à regarder actuellement avec ce qui s'est passé. Un, le type de pétrole qui vient du Venezuela. Deux, où est-ce qu'il est transformé? Et c'est quoi les réserves, justement, du Venezuela? Parce que ça va impacter directement l'Alberta et évidemment par la bande le Canada. Donc la première chose, c'est que le pétrole du Venezuela, c'est un pétrole qui est de type lourd, extra lourd. Et c'est à peu près la même chose en Alberta. Donc, on a deux pétroles relativement similaires et qui ont aussi la particularité d'être transformés exclusivement dans les raffineries du sud des États-Unis.
Est-ce qu'ils sont vendus au même prix puisqu'ils sont dans les mêmes technicalités? Est-ce qu'on peut même aussi les comparer au niveau du prix?
Oui, ben ça, le prix est fixé mondialement. Donc, c'est sûr que généralement, ça n'a pas nécessairement d'impact au niveau du prix.
Même dans le sol. Excusez-moi, la question n'était pas assez précise. Est-ce qu'au niveau du prix pour les sortir du sol, c'est les mêmes coûts? On parle de main-d'œuvre, on parle de machinerie. Est-ce qu'au Canada, ça nous coûte plus cher de le sortir qu'au Venezuela, par exemple?
Ben, c'est sûr que si on regarde déjà un élément qui est assez important, la main-d'œuvre, c'est sûr que quelqu'un au Venezuela ne fait pas le même salaire que les gens qui travaillent dans l'Alberta qui font des salaires très élevés. Donc, c'est sûr que le coût est plus cher au Canada. Maintenant, ce qui se passe, c'est comment il est transformé. S'il est transformé dans les raffineries des États-Unis qui sont spécialisées dans, justement, les barils de lourd, d'extra lourd, ça fait qu'on ne peut pas les transformer ailleurs pour l'instant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était question de construire un autre pipeline justement à l'ouest de l'Alberta pour l'emmener éventuellement sur les marchés asiatiques qui pourraient aussi développer ce type de raffinerie. Mais ça fait qu'on est pris avec ça. Et comme le Venezuela a 303 milliards de barils disponibles à exploiter, ben ça fait que évidemment il pourrait donc y avoir un choc, un petit choc en tout cas, au niveau de l'offre d'essence mondialement. Et ça, à long terme, juste à long terme, ça pourrait faire évidemment maintenir en tout cas le prix relativement bas du baril. Et c'est ça qui est dangereux. Alors pour l'instant, il n'y a pas nécessairement une grosse capacité d'extraction au Venezuela. On est juste à 1 million de barils. Juste l'Alberta en fait 4 millions par jour. Mais on estime qu'elle pourrait arriver très rapidement d'ici 1 à 2 ans à 2 millions de barils et ensuite beaucoup plus de production journalière. Et c'est là où ça ferait vraiment mal à l'Alberta si on maintenait le prix du baril assez bas d'une part, parce que ça veut dire que évidemment ces recettes ses revenus baisseraient, l'Alberta, le PIB de l'Alberta en souffrirait d'un prix bas, et éventuellement, est-ce que la raffinerie américaine prendrait juste du pétrole vénézuélien parce qu'ils auraient aussi peut-être un meilleur deal en raison du coût d'extraction? Ben ça pourrait faire très mal, et évidemment, ça aurait des répercussions ensuite sur le Canada en raison d'éléments fiscaux et budgétaires.
Pierre, maintenant qu'on sait ça, comment combattre ceci au Canada? Est-ce que c'est avec la fameuse construction du pipeline qui nous amènerait justement, qui nous permettrait justement d'amener du pétrole jusque vers les pays européens et asiatiques?
Bien, c'est sûr que la diversification des marchés, on en parle beaucoup depuis les tarifs, et c'est évidemment un élément qui viendrait mitiger le risque, parce que si du jour au lendemain les Américains disent « bon, bah, écoutez, on n'a plus besoin d'exporter votre pétrole », ben pour l'instant, on est pris parce qu'on n'a plus aucune place où l'envoyer et où le vendre, parce qu'on n'a pas les moyens techniques. En ce moment, il y a juste un pipeline qui part de l'Alberta vers le sud des États-Unis. L'autre élément, et tu l'as justement dit, c'est qu'actuellement, ben, on n'a plus aussi de levier avec les États-Unis. Et donc, notre relation avec les États-Unis, qui est déjà très asymétrique, va l'être encore plus. Parce que ce qui nous reste actuellement, si on regarde ça froidement, c'est peut-être un petit levier au niveau de l'hydroélectricité qu'on envoie aux États-Unis par le Québec d'ailleurs, et aussi quelques ressources naturelles qui sont un peu éparpillées partout à travers le Canada, qui sont autres, donc on extrait du sol comme le graphite, l'alu, etc. Donc actuellement, on est vraiment très très mal pris avec cette nouvelle-là. La chose qui apporte en tout cas un petit peu de temps et un peu de répit actuellement, vraiment d'un océan à l'autre, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement au Venezuela. Il n'y a pas d'accord officiel, il n'y a pas de gouvernement stable. C'est quand même un narco-État, donc toute l'administration, toute l'armée et tout le gouvernement sont corrompus et font partie de ce qu'on appelle le cartel du soleil. Donc c'est pas sûr que les pétrolières américaines vont pouvoir arriver dès demain puis se mettre à bâtir des usines qui d'ailleurs prennent quand même du temps à mettre en place, même si la technologie a beaucoup évolué. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais c'est sûr que c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le Canada et comme je dis pour les finances publiques, parce que tu parlais de péréquation, c'est une très bonne chose. Si les revenus de l'Alberta chutent, alors qu'ils contribuent à hauteur de 4 milliards par an sur les 25 milliards de péréquation et qu'on leur en donne très peu, ben dans ce temps-là, ça veut dire qu'il va y avoir un gros impact au niveau des recettes fiscales du Canada qui va devoir recalculer la péréquation, qui va avoir devoir redistribuer, ça pourrait dire des augmentations de taxes et éventuellement dans les autres provinces, ou encore plus de déficits, ce qui n'est pas bon vu la situation budgétaire actuelle.
Pierre, autre question que j'ai pour toi, est-ce qu'on doit continuer coûte que coûte avec notre pétrole ou faudrait se tourner, parce qu'on parle beaucoup des diversifications de marché, mais on devrait se tourner plutôt à diversifier notre économie, c'est-à-dire travailler davantage à extraire nos minerais critiques et travailler davantage au développement des énergies vertes?
Ben, évidemment, on ne peut pas être contre la vertu, là, donc c'est sûr que c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que oui, la diversification, c'est obligatoire pour toutes les économies. Y aller avec ce qu'on appelle la spécialisation, c'est-à-dire miser sur nos atouts, être capable de développer différentes industries autour de certaines ressources qu'on a ici, d'être capable de les intégrer donc verticalement, ça veut dire dans tout ce qui est transformation, revente, etc., mais aussi horizontalement, donc comment on est capable de développer plusieurs produits à chaque niveau avec chaque ressource qui est extraite. Après, c'est que ce n'est pas mutuellement exclusif. Reste que si on veut continuer à faire de l'argent, il y a quand même 25% du PIB de l'Alberta qui dépend du pétrole. Ils ne vont pas l'abandonner du jour au lendemain. C'est 98% de la production canadienne. Le Canada a aussi besoin de pétrole. L'économie mondiale a besoin de pétrole. Donc, si on regarde ça froidement, malheureusement, on ne pourra pas abandonner le pétrole, surtout pas du jour au lendemain. Et il reste quand même 160 milliards de barils disponibles au Canada dans nos réserves prouvées. Et ça, c'est sans ce qu'il y a potentiellement dans l'Arctique. Alors, oui, la diversification. Oui, à l'accélération dans la diversification, dans la spécialisation. Par contre, je ne pense pas qu'on puisse abandonner le pétrole tout de suite. Ce serait vraiment dramatique pour l'économie albertaine et canadienne.
Peut-être que ma question sera stupide, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'en fait tourner un peu cette exploitation pétrolière-là qu'on connaît au Canada seulement et uniquement vers nous sans perdre financièrement? Je m'explique. Si on commence à s'approvisionner nous puis à penser un petit peu plus à notre pays versus à l'exportation qu'on peut en faire, est-ce qu'on serait perdant? Comme ça, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas les impacts des autres qui nous tomberaient sur la tête?
Peux-tu juste préciser ta question? Parce qu'il y a plusieurs éléments que je pourrais partager là-dessus.
Mais sans arrêter de l'exploiter, de le faire, mais pour nous, essentiellement, retourner le marché vraiment au Canada, devenir un petit peu fermé là-dessus, s'assurer que ça reste dans nos coffres, peut-être un petit peu moins faire d'argent à l'international, mais au moins avoir encore l'expertise.
L'immense problème qu'on a actuellement, en fait, c'est que on s'est complètement menotté. Parce que, comme je l'ai précisé, 98% du pétrole et des réserves canadiennes sont en Alberta. C'est un pétrole de type extra-lourd qu'on, malheureusement, n'est pas capable de raffiner nous-mêmes. Donc, ça veut dire qu'il faudrait monter des raffineries, ce qui prend énormément de temps, pour être capable de le transformer et soit de l'utiliser donc pour nous directement ou de le revendre. Ça, c'est sûr que ce serait quand même avantageux. Malheureusement, ça prendrait beaucoup de temps pour être capable de le faire. Et donc là, c'est une décision que doit prendre le gouvernement. Il faut aussi penser aux impacts géopolitiques. Si du jour au lendemain, on envoie le message aux Américains dans le cadre d'une guerre commerciale pour leur dire, finalement, on va le raffiner nous-mêmes, on ne vous l'envoie pas, vous perdez votre industrie lourde tant que vous n'êtes pas capable d'avoir le pétrole vénézuélien que vous transformez très peu. Il transforme peut-être 20% de la production vénézuélienne, qui est 1 million de barils par jour, donc c'est absolument rien. Je pense que ça pourrait malheureusement nous créer beaucoup plus de problèmes vis-à-vis du président américain qui change d'humeur assez rapidement, comme on l'a vu dans les derniers mois.
On parle avec Pierre Graff, qui est président et directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec et analyste en économie. Pierre, tu t'attends à quoi de l'ère post-Maduro pour en ce qui a trait à l'économie, à notre situation économique Canada-États-Unis?
C'est sûr qu'il y a une part d'inquiétude, parce que là, on voit que les États-Unis veulent vraiment comme revenir à ce qu'on appelle la doctrine Monroe, c'est-à-dire d'avoir la mainmise complète sur l'Amérique et de laisser le reste du monde, dans le fond, à ses, entre guillemets, ennemis qui peuvent se partager à leur guise. Donc là, ce qui vient de se passer avec le Venezuela, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'OTAN. On a vu qu'il parlait même d'attaquer quasiment Groenland, qui appartient au Danemark, qui est un pays ami, qui est membre de l'OTAN. Donc je m'attends, je vous dirais que c'est un peu complètement fou ce qui se passe. Là, on a peut-être une redéfinition complète au niveau des relations internationales et du fonctionnement des relations internationales des 70 dernières années, qui est vraiment une anomalie dans l'histoire. L'histoire a été faite d'impérialisme. Là, depuis 70 ans, on avait une sorte de paix internationale avec le droit international qui primait relativement, du moins pour les conventions qui étaient suivies par les différents pays. Et on voit déjà que ça a des répercussions majeures. On s'attend à ce que Cuba tombe, on s'attend à ce que l'Iran tombe, on s'attend peut-être même à une implosion de l'OTAN, donc de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qui fait que tout est possible. Et malheureusement, on n'a aucune visibilité sur ce qui va se passer. Et c'est pour ça que vraiment le Canada a intérêt à très, très, très rapidement diversifier ses marchés, signer des ententes avec les pays, trouver un moyen de faire baisser la tension avec les États-Unis pour être capable de s'en sortir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de chances qui peuvent changer très rapidement, et c'est pas notre avantage, parce qu'on le voit, notre économie performe pas malheureusement depuis 10 ans, avec une productivité qui a stagné, qui n'a pas augmenté. Elle a augmenté de 0,5% quand les États-Unis augmentaient de 20,7%. Et ça fait que on ne sera pas capable d'absorber des chocs, notamment ceux au niveau de l'offre et de la demande de pétrole, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui se passe en Iran. Et ça, c'est évidemment inquiétant. Donc, beaucoup d'incertitudes. Puis, il va falloir voir ce qui va se passer. Regardez juste cette nuit, tentative de coup d'État au Venezuela. Ça bouge dans tous les sens et c'est vraiment dur de prévoir ce qui va s'en venir.
Pierre, je termine avec une question de Sam, un de nos auditeurs. Pourquoi combattre si le baril de pétrole est bon au Canada, c'est bon pour le consommateur, et pourquoi on n'a pas de raffinerie pour le lourd et l'extra-lourd ici au Canada?
Oui, ben, c'est deux bonnes questions. Pour les raffineries, ben, c'est simple. On a acheté la paix avec les États-Unis, qui sont le plus grand marché au monde, qui sont très, très, très demandants au niveau de du pétrole. Et donc, le deal qu'on avait, c'est qu'on les laissait raffiner le pétrole américain et eux le transformaient, puis faisaient un profit là-dessus. Puis nous, on avait la garantie que toute notre production était achetée.
OK.
Donc, c'est un peu
une solution gagnante-gagnante, là.
Gagnante-gagnante, mais en même temps, les Américains nous revendent le pétrole plus cher là, pour ouais, leur envoi. Okay. Donc, c'est quelque part, c'est assez quand même assez surprenant comme chose. Mais bon, l'autre question, peux-tu me la rappeler? S'il te plaît, je l'ai perdue.
Oui, l'autre question, c'est pourquoi vouloir que le baril de pétrole soit un coût quand même assez élevé? Quand il est bas, c'est bon pour le consommateur.
Alors oui, c'est bon d'avoir du pétrole bas parce qu'en fait, il faut comprendre que toute l'économie fonctionne sur le pétrole majoritairement, là, puis l'électricité. Là, quand des camions, des autos se déplacent pour le travail, ben, s'ils payent moins cher pour les déplacements, comme l'épicerie par exemple, hein, on voit, quand le prix du pétrole augmente, ben, le coût de l'épicerie augmente, c'est transporté par camion, par bateau. C'est bon pour l'économie. C'est sûr que c'est bon d'avoir un baril de pétrole qui est bas. C'est sûr que les recettes dans ce temps-là de l'Alberta, et je l'ai dit, c'est 25% de leur PIB qui vient du pétrole. Mais ça fait que leurs recettes baissent. Donc, ultimement, les recettes fiscales du Canada baissent, de l'Alberta baisse. Puis là, c'est pas bon.
Fait que c'est cet équilibre-là qui est c'est cet équilibre-là, justement, qui est difficile à conjuguer. Pierre Graff, merci infiniment pour ta disponibilité ce matin et au plaisir de se reparler prochainement. Je suis certain qu'on va avoir beaucoup de discussions économiques à avoir dans les prochains jours, prochaines semaines.
Ben merci, Jeff. Au plaisir.
Salut, merci beaucoup, Pierre Graff, qui est directeur général du regroupement des jeunes chambres de commerce et aussi analyste en économie. Pascal, j'ai vu que Donald Trump va prendre la parole également à 10h ce matin. Donc, bien hâte de voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il va reparler encore du Groenland, de la Colombie, du Mexique? Tout le monde est sur un pied d'alerte à l'heure actuelle.
Absolument. Et aussi, les reproches qu'on lui fait par rapport au droit international.
C'est vrai, avec l'ONU.
Puis, tenter de se rapprocher de la Chine, il a tenté de se rapprocher de la Russie. Tu sais, Donald Trump, on disait souvent qu'il y avait un type de politique qui était d'être près de ses ennemis, entre parenthèses, là, on s'entend économique dans ce cas-ci. Et là, il se fait accuser de franchir des barrières que probablement on aurait attribué ce franchissement de barrières-là à ces pays-là, qui sont beaucoup plus
Normalement, c'est des pays qui sont gérés par des dictateurs qui vont franchir ces barrières-là. Là,
ça s'était déjà vu aux États-Unis.
Oui, mettez l'exemple le plus frappant, la Russie avec l'Ukraine.
Oui, dans le fond, où on ne se pose pas vraiment de questions sur les sanctions internationales.
On attaque, puis on dit, OK, on y va, puis nous autres, on veut reprendre du territoire parce que moi, je suis Vladimir Poutine, puis j'ai le rêve de l'ancienne URSS.
Il y a un jeu de coulisses intéressant aussi là-dedans qu'on va probablement voir arriver tranquillement, pas vite, ou encore seulement dans quelques années, puis ça va nous éclater dans la face. Ça donne beaucoup de pouvoir, justement, à ces pays-là qui n'avaient rien à reprocher aux pays occidentaux en termes de mœurs, d'éthique et tout ça, bien que pour eux, c'était la moindre des choses de s'intéresser à ça. Ils s'en foutaient bien gros. Mais en ce moment, ils ont un genre de gros bout du bâton en se disant « Oh, ben là, hein, vous faites vos anges et vous avez donc bien des meilleures valeurs que nous, mais officiellement, c'est pas nécessairement comme ça que ça se traduit. » Puis ça pourrait donner un peu de force aussi, de mon point de vue personnel, à des pays pour qui on reproche en fait, une façon de gérer leur propre société. Là.
Et moi, une crainte que j'ai aussi, c'est le conflit Israël et bande de Gaza. Donc, avec la Hamas, parce que c'est pas terminé du tout. Oui, il y a un cessez-le-feu, mais lorsqu'on s'intéresse là, dans les médias, on voit très bien que autant Israël que la Hamas continuent à se faire une guerre. On veut complètement désamorcer la Hamas et surtout désarmer la Hamas du côté d'Israël, ce qui en soi est une bonne affaire. Mais il y a encore des civils qui meurent là-bas. Et ça, l'intervention des États-Unis, je me demande si ça ne donne pas encore plus de légitimité à Benjamin Netanyahou de continuer à frapper la bande de Gaza.
Je ne suis pas assez experte pour commenter.
Moi non plus, je me pose la question. C'est une question que je me pose parce que tu sais, il a été un des premiers à saluer l'intervention de Donald Trump. Sais-tu, on va en parler dans On en jase, on a Luc Laliberté à 13h.
Excellente idée. On
va en parler
question.
Avec lui. Je lisais aussi dans les médias là, qu'on veut couper complètement le pétrole du Venezuela à Cuba, donc Cuba qui serait en péril. Je veux qu'on parle de ceci aussi dans l'émission On en jase. Tellement difficile les conditions de vie là-bas. Donc, je veux qu'on parle de tout ceci là avec Luc Laliberté. Ça va être quoi au niveau aussi politique? Mais de toute façon, être le fun parce que Donald Trump parle à 10h. Fait qu'on va avoir en masse de sujets à parler avec Luc à 13h. Mais au niveau de l'interne aussi, le fait que Donald Trump ne se soit pas adressé au Congrès et agit seul, est-ce qu'il va avoir encore plus de républicains?
Ben, pour lui, c'est pas un acte de guerre.
Oui, c'est ça.
Puis normalement, s'il souhaitait... s'adresser au Congrès, habituellement, c'est plus une déclaration de guerre qu'il devait faire approuver. Pour lui, il essaie de s'en sauver encore en étant un peu sur la ligne.
Oui, Marjorie Taylor Greene, qui est une ancienne, justement, grande admiratrice et surtout grande partenaire politique de Donald Trump, qui a fait une sortie virulente hier, là, justement, par rapport à ça. Pascal, j'ai le goût qu'on termine dans le plus léger. Je veux te demander, qu'est-ce que tu penses de nos politiciens sur TikTok, notamment ceci? Attendez, il faut que je...
C'est le son de la vidéo. C'est le son de la vidéo, moi, je pense.
Oui, c'est le son de la vidéo. Mais
regarde à droite, en bas, ça se peut-tu?
Ah, il était ici, en haut, à gauche. Et voilà, on repart ça. C'est notre premier ministre. Il est sur TikTok avec son air label. Ça, c'est plein de candidats de la CAQ qui souhaitent bonne année pour être cool avec nos jeunes sur TikTok. T'en penses quoi des gens qui tentent d'être cool, qui sont un peu trop vieux?
J'en ai déjà parlé. Écoute, moi, je suis la vieille de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Fait que probablement que je suis malaisante dans ma façon de faire aussi pour la jeune génération. La jeune génération est aussi malaisante pour moi parfois.
Ouais.
Et la plus vieille génération peut être malaisante aussi. Hein, on ne sait pas trop comment, mais on pense qu'on fit, puis on pense qu'on est... rendu là, on se comprend selon l'âge qu'on a, selon le groupe générationnel dans lequel on est. Mais pour la politique, jamais j'ai entendu dire que ça a été gagnant.
Que ça a été gagnant de faire une petite vidéo de TikTok.
Quand on vient qu'à parler de politique, quand on vient qu'à parler d'enjeux et tout ça. Mais je pense que je me trompe. 418-971-1021. Avez-vous vu vos mères, vos grands-mères, vos pères être captivés par... la jovialité, l'enthousiasme et le dynamisme d'un politicien sur une vidéo qui est tout autre que de la politique sur leurs réseaux sociaux? Je pense que je me trompe. Je pense vraiment que là j'ai mes yeux de Pascal qui trouve ça malaisant puis qui jamais, mais jamais conseillerait un politicien de faire ces choses-là. Moi, à un moment donné, Sonia Lebel, sur son Instagram, me mettait mal à l'aise, mal à l'aise à refaire des danses assis à ça. Ouais, Dominique Anglade m'a rendu mal à l'aise lorsqu'elle était en élection.
Ah oui, Dominique Anglade en élection.
Mais je pense que ça peut plaire.
Ouais.
Mais quel pourcentage? Moi, jamais je conseillerais ça à n'importe qui, à aucun politicien.
Parce que je te pose cette question-là parce que notre icône, notre Céline, est maintenant sur TikTok et voici comment elle a présenté le tout sur son Instagram.
Oh, I got kids. We have to get you on TikTok and all that. I'm like, what? On TikTok. I've heard that before. Suddenly, I'm becoming cool. Céline Dion is cool. That's amazing. TikTok, here I come. Ciao.
Alors, elle explique que ses enfants lui disaient « Tu dois être sur TikTok. » Puis elle dit « Ah ouais, je vais devenir cool, Céline Dion. » Puis elle se met des lunettes fumées. Là,
oui. Mais c'est, pour moi, dans le divertissement et dans la culture, elle peut faire ce qu'elle veut.
Exactement.
Céline Dion peut encore plus faire ce qu'elle veut.
Ben oui. Et sais-tu quoi? Ça va vraiment pogner parce qu'elle a déjà 4,7 millions d'abonnés à son compte TikTok en moins de 24 heures.
Elle fait pas ça pour l'argent, elle fait pas ça. Elle va s'amuser.
Elle va s'amuser là-dessus, ça va être drôle. J'ai hâte de voir Céline, qui, soit dit en passant, reprend beaucoup d'énergie et de santé. Donc, il y a des gens qui se disent que peut-être bien qu'on n'a pas vu le dernier spectacle de Céline Dion en carrière, ce qui serait tout simplement incroyable. Si vous n'avez pas vu là, justement le documentaire sur sa maladie, je vous incite à aller le voir. Là. J'ai écouté ça avec Val, moi, puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Là,
avoue qu'en n'ayant pas tant suivi peut-être le complet état de santé de Céline Dion, on est surpris quand on regarde le documentaire à quel point ça peut être prenable, difficile
vraiment.
Pour elle aussi.
Et là, sa vidéo a reçu 162 000 mentions j'aime sur Instagram, parce que c'est une vidéo qu'elle a mis sur Instagram pour annoncer qu'elle allait sur TikTok, alors que sur TikTok, elle en a récolté à ce jour plus de 650 5000. C'est fou comment ça évolue rapidement chez les médias sociaux. Tu sais, moi, je suis encore le dinosaure qui utilise Facebook, mais dans le fond, là, 162 000 sur Instagram, 605 000 sur TikTok.
Mais c'est pas le même public. Chacun de tes réseaux sociaux, selon les experts, devrait offrir quelque chose de différent à ta clientèle, à tes abonnés. Puis Facebook, ben c'est sûr que moi, je le vois, là, c'est pas les mêmes personnes qui me suivent sur Facebook que ceux qui me suivent sur Instagram, que ceux qui me suivraient sur TikTok. On est vraiment dans différentes catégories de personnes. Je sais qu'un texte, mettons, que je vais écrire ou une réflexion, moi, ça va être beaucoup plus sur Facebook versus le quotidien, les restos. Bon, ce qui me plaît, c'est Instagram. Ben là, Céline Dion va aller rejoindre une autre génération, puis elle va pas s'amuser de la même manière qu'elle peut le faire sur Facebook. Là.
Elle a fait une imitation du Grincheux de Noël et sur TikTok, ça a récolté 1,8 million de mentions j'aime. Tu sais, quand on se dit, ouais, écoute, Céline Dion, c'est la star mondiale, Pascal, parce que, écoute bien ça, elle est sur TikTok depuis moins de 24 heures, OK? Elle a déjà plus d'abonnés que Justin Timberlake, que Cher et que Kelly Clarkson. C'est complètement fou. Le phénomène Céline Dion sur TikTok. Soyons fiers. Honnêtement, c'est une artiste incroyable. Elle avait livré une performance en direct de la Tour Eiffel aux Jeux Olympiques qui est mémorable à mon goût. Donc, soyons fiers de notre Céline qui est en train de abattre les barrières de TikTok et de devenir l'artiste, sûrement l'artiste québécoise la plus suivie là, sur cette nouvelle plateforme.
Elle devient cool, comme elle dit dans ses vidéos.
Exactement. Il y a une auditrice, un auditeur qui écrit « Hey, hot Céline, elle commence sa vie. » C'est vrai, elle a l'air à revivre, elle a l'air à renaître, justement, compte tenu qu'elle s'est débarrassée là, de sa maladie.
Hypothèse supplémentaire par rapport à Céline Dion, au-delà de TikTok, il y a des révélations qui sont sorties de Vito Luprano. Puis ça, c'est un ancien bras droit de René Angélil. Là. Et encore là, c'est la parole de l'un contre l'autre.
Ouais,
encore là, on sait pas, on n'a pas commencé à se dédouaner de ce qui a été dit, mais il y a un livre qui est apparaître, un livre qui s'appelle « It's all coming back to me ». Bon, une petite référence à Céline Dion, puis début de sa carrière, puis tout ça. Mais on apprend que Céline Dion a exercé des pressions assez majeures sur Sony Music en 97 pour empêcher qu'il y ait signature de contrat avec Lara Fabian.
Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça passer vite, vite.
Elle aurait menacé la compagnie, la maison de disques, en fait, de quitter si jamais sa rivale de l'époque, à ce moment-là, Lara Fabian, obtenait le contrat pour lancer sa carrière aux États-Unis. C'est intéressant quand même de voir à quel point on peut jouer du coude dans l'industrie. Bon, ça lui a servi, assurément. Après, on peut juger, fait-tu pas ça? Là, pour moi, là, ce que je lis là, parce que je suis pas scandalisée, c'est bien plus requin que ça dans le monde des affaires et ça reste des affaires. Est-ce qu'elle a été intelligente de le faire? Ben, si on regarde sa carrière actuelle, oui. Mais est-ce que c'est bon de faire ça aux dépens de quelqu'un d'autre? Quand tu es assez confiant envers tes moyens, ton talent, tu devrais pas du tout bloquer quelqu'un d'autre.
Exactement. Tu devrais jamais rabaisser quelqu'un pour te rehausser, mais te rehausser toi-même.
Surtout pas des gens au Québec.
Ah oui, je suis tellement d'accord. Et surtout que c'est très difficile pour les artistes ici au Québec de percer aux États-Unis. Donc, on doit laisser la porte ouverte à tous les artistes. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Point de Max qui suit de 10h à midi. Par la suite, l'émission en jase. On le dit, Pascal, on va jaser avec Luc Laliberté à 13h du dossier, justement, États-Unis-Venezuela. Donald Trump qui va prendre la parole à 10h ce matin.
On va surveiller ça.
On va aussi avoir le caucus avec Victor Henriquez. Donc, sûrement qu'on va revenir sur la chefferie du Parti libéral. J'ai hâte de l'entendre sur la candidature de Mario Roy. D'après moi, lui aussi, il est pas mal étonné. On le rappelle, Charles Milliard qui a officialisé sa candidature. Et on va aussi parler avec Éric Gingras, qui est le président de la centrale syndicale de la CSQ. C'est leur conférence de presse de début d'année. Ils vont tenir ça à 11h ce matin. Et on va parler notamment d'éducation, puis aussi de comment on va jouer ça, cette fameuse là, guerre sociale-là que Magali Picard avait parlé de la FTQ. La CSQ, je les aime bien, notamment, normalement, Éric Gingras pas mal plus terre-à-terre. Donc, c'est pour ça qu'on va jaser avec lui, justement. Alors, soyez avec nous, on en jase de midi à 14h et le retour de Gravel qui va suivre de 14 à 18h. Bonne journée sur nos ondes, guys. On se parle dans 2 heures. Salut tout le monde.
À tantôt.
À tantôt.